un journal présenté ce soir par Emmanuel Grabé. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir à toutes et à tous. L'Europe en bloc derrière la Grèce face aux menaces du président turc Erdogan. Bruxelles promet d'aider Athènes à faire face à l'afflux de migrants poussés vers l'Union par Ankara. Les trois présidents des institutions européennes, tous autour du premier ministre grec. Photo de famille décryptée par Louise Baudet. À suivre aussi l'espoir que suscite la gauche aux États-Unis. La Californie notamment organise aujourd'hui sa primaire démocrate. La Californie, un état où l'on construit des parkings pour ceux qui dorment dans leurs voitures aux vitres teintées. Dans le même temps, la Fed, la banque centrale américaine, prend une mesure inédite depuis 2008 pour soutenir la croissance face à l'épidémie de coronavirus. Alors qu'en France, face aux annulations en cascade de salons, les hôteliers restaurateurs craignent d'y perdre beaucoup. Et puis, on ira jeter un coup d'œil à l'Assemblée nationale où débute en ce moment le débat des deux motions de censure déposées contre le gouvernement. Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, voulait un soutien ferme de l'Union européenne face à l'afflux de migrants à la frontière avec la Turquie. Dont acte, ceux qui cherchent à tester l'unité de l'Europe seront déçus, dit la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Louise Baudet, tous les dirigeants européens étaient autour de Kyriakos Mitsotakis aujourd'hui.
Une Europe sans costume-cravate venue se confronter aux réalités d'un terrain très sécurisé. Les trois principaux dirigeants de l'Union européenne sont là, aux côtés du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis.
Thank you very much for your presence.
Des remerciements et une mise en garde à l'adresse du voisin turc.
Nous envoyons un signal très très clair. Les migrants ne peuvent être utilisés comme les instruments d'un jeu géopolitique. Ça n'est pas acceptable.
Solidarité ensuite des Européens et de la présidente de la Commission de Bruxelles, Ursula von der Leyen.
Les inquiétudes grecques sont nos inquiétudes. Cette frontière n'est pas seulement grecque, elle est aussi européenne. Et je me tiens ici aujourd'hui, en tant qu'européenne, à vos côtés.
À la clé, une aide de 700 millions d'euros et des renforts de l'agence Frontex. Mais au-delà, les dirigeants européens sont venus délivrer un message d'unité.
Ceux qui cherchent à tester l'unité de l'Europe seront déçus. Nous resterons fermes et notre unité l'emportera.
L'unité européenne impossible à trouver depuis bientôt 5 ans sur ce dossier migratoire, rappelle le président du Parlement européen, l'Italien David Sassoli.
Celui qui arrive en Grèce arrive en Europe. Celui qui arrive en Italie, à Malte, en Espagne arrive en Europe. Et c'est à l'Europe de partager le poids de l'immigration, de procéder à une répartition équitable qui garantisse le fait qu'en Europe, les libertés et les droits des personnes sont défendus. Nous avons besoin d'un tournant.
Un tournant bien au-delà des photos de famille et des réunions de crise. Demain, à Bruxelles, entre ministres de l'Intérieur des 27, avant leurs collègues des Affaires étrangères, vendredi en Croatie.
À la Turquie qui agite la menace des migrants pour obtenir le soutien de l'Union européenne dans son combat contre le régime syrien de Bachar al-Assad. Eh bien, ce matin, l'armée turque a abattu un avion de combat syrien dans la région d'Idleb, dernier bastion des rebelles. Dans le même temps, l'Observatoire syrien des droits de l'homme affirme que 9 civils ont été tués dans un bombardement mené par le régime de Bachar al-Assad sur la ville d'Idleb. 3 hommes, 14 scrutins, un seul objectif, apparaître ce soir comme le seul à même d'affronter Donald Trump en novembre prochain à la présidentielle américaine. C'est le Super Tuesday aujourd'hui aux États-Unis, le grand mardi, un tiers des délégués démocrates sont en jeu, car plusieurs États importants votent, notamment la Californie, c'est le plus grand, c'est le plus riche, c'est aussi l'un des plus inégalitaires, un des thèmes au cœur de la campagne actuelle, comme en témoigne ce reportage dans la baie de San Francisco de Gregory Phillips.
Mountain View en pleine Silicon Valley, 75 000 habitants et surtout le siège de Google. Mais à quelques centaines de mètres seulement, il y a aussi ses camping-cars et ses voitures le long de la voie ferrée où vivent des dizaines de travailleurs pauvres. Les loyers sont devenus si chers dans la vallée que Robin ne parvient plus à se loger. Depuis fin décembre, cette infirmière d'une cinquantaine d'années dort dans sa voiture avec sa chienne Molly tout en allant travailler chaque jour.
Je ne blâme personne d'autre que moi. J'aurais dû mieux planifier les choses. Ici, il n'y a pas de contrôle des loyers. Et le mien augmentait chaque année. $100, $100. Maintenant, il est à 2450. Au moins, il me reste ma voiture. Je suis contente d'avoir les vitres teintées. C'est un endroit où manger, dormir, se lever le matin, puis recommencer. Parce que dans cette vallée, vous ne pouvez pas prendre un seul jour de repos. C'est devenu si cher de vivre ici.
Ce train est celui qui chaque jour longe la baie de San Francisco et amène au travail les salariés de Google, Apple ou Facebook. Malgré les difficultés, Robin pense qu'elle ira voter.
Je suis pour Bernie. Lui, il est pour le peuple.
Dans la Silicon Valley, le nombre de ceux qui vivent dans leurs véhicules ne cesse de croître, à tel point que le comté de Santa Clara a créé des parkings exprès pour accueillir ces travailleurs qui dorment dans leur voiture.
Grégory Phillips aux États-Unis pour France Culture. Les États-Unis peut-être à quelques heures d'un sacré coup de barre à gauche quand Israël penche encore un peu plus à droite en piste pour un nouveau mandat. Benjamin Netanyahou, malgré les poursuites judiciaires pour corruption qui pèsent sur lui, son parti, le Likoud, sort en tête des élections législatives d'hier après deux tentatives qui l'ont laissé au coude à coude avec Benny Gantz. Il distance donc son rival. La gauche, Omar Waman, elle, est carrément en miettes.
Le musée Ben Gurion à Tel Aviv est le passage obligé pour de nombreux visiteurs, admirateurs du père de la nation israélienne. Également, grande figure socialiste, Moshe est violoniste. Il fait partie des déçus de la gauche et notamment du Parti travailliste.
The Labour Party, it belongs to the past.
Le Parti travailliste appartient au passé. Il a été détruit au fil des années par toutes sortes de guerres internes.
Divisions internes, inaudibles, la gauche en Israël est en voie de disparition. 60% de la population se dit de droite. Yana est chirurgien à la retraite. Il a voté pour le bloc de gauche.
Tout d'abord, ce n'est pas une caractéristique israélienne. C'est aussi le cas en Europe et dans le reste du monde. L'idéologie est vivante, mais elle ne peut pas permettre de gagner une élection. C'est trop risqué, vous ne seriez pas élu.
Difficile par conséquent pour les partis de gauche d'assumer leurs valeurs dans ce contexte, surtout lorsque les formations de droite les qualifient de traîtres de la nation pour avoir défendu la solution à deux États.
Reportage à Jérusalem d'Omar Waman. Après l'OCDE qui faisait état hier de prévisions de croissance mondiale largement revues à la baisse, les ministres des Finances et les banquiers centraux du G7 se sont engagés en début d'après-midi à utiliser, je cite, « tous les instruments appropriés pour soutenir la croissance, y compris des instruments budgétaires ». Première des sept à dégainer, la Fed, la banque centrale américaine qui annonce une baisse de ses taux directeurs de 0,5 points. Immédiatement, Donald Trump a demandé à la Fed d'aller plus loin alors que, déjà, l'annonce frappe par son ampleur, c'est ce que dit Alexandre Baradez, il est responsable analyse marché chez IG France.
0,5% d'un coup, c'est le double des mouvements habituels sur les taux. Normalement, on bouge de 0,25% à 0,25%. Historiquement, la dernière fois qu'on a une baisse de taux de cette ampleur, c'était juste après la faillite de Lehman Brothers en 2008. On peut se dire, oui, ça assouplit les conditions financières, c'est un élément de soutien pour l'économie. De l'autre côté, c'est plutôt mon sentiment, ça peut être perçu comme un mouvement de stress de la part de la Banque Centrale Américaine qui acte un ralentissement va intervenir sur l'économie américaine et qui donc prend les devants. Et ça tranche un petit peu avec la confiance affichée par l'administration américaine, qu'on entendait répéter régulièrement, que ce soit le conseiller économique de Trump ou le secrétaire au Trésor, que l'économie américaine était bien positionnée. Si on baisse les taux de manière aussi importante, aussi rapidement, c'est que potentiellement on perçoit un danger pour l'économie américaine, donc on estime qu'elle a peut-être des fragilités et qu'elle sera sensible à cette crise du coronavirus. Est-ce que le marché ne va pas s'inquiéter lui aussi de voir la Fed bouger aussi fortement ses taux entre deux réunions?
Pour l'instant, ça semble bien se passer. La bourse de Paris se maintient. Le CAC 40 termine même en hausse de 1,12%. En France, le ministère de l'économie annonce des mesures de soutien pour les secteurs les plus touchés par l'épidémie, notamment Annabelle Grelier, l'hôtellerie-restauration qui voit ses chiffres dégringoler.
Le salon du livre, le salon du tourisme, le salon Big Data, foire, exposition, les annulations des traditionnels grands rendez-vous et événements tombent une à une depuis dimanche. De quoi inquiéter le président du groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration, Didier Chenet.
Rien que les traiteurs organisateurs de réception, c'est 20% de moins là, au jour où je vous parle. Et pour ce qui concerne leur carnet de commandes, c'est entre -30 et -40%. Et c'est une activité que l'on ne voit pas souvent parce qu'elle est derrière dans tous les congrès, dans toutes les foires et tout ça. Toute cette cascade d'annulation, évidemment, pose de gros problèmes.
Pour aider les entreprises à faire face, Bercy a déjà annoncé l'étalement de charges sociales et fiscales. Il promet aujourd'hui de mobiliser la banque publique d'investissement BPI France pour garantir les prêts des PME. Tout cela reste encore insuffisant pour le GNI.
Je demande deux choses. L'une qui concerne nos saisonniers, donc nos employés saisonniers, pour qu'ils puissent bénéficier de l'indemnité chômage quand bien même ils n'auraient pas fait une saison de 6 mois. Et la deuxième, ça concerne bien entendu les entreprises, et notamment les traiteurs organisateurs de réception et hôteliers. Nous demandons la suspension de cette taxe de 10 euros sur les extras, qui est absolument insupportable.
Didier Chenet appelle le gouvernement à prendre des dispositions pour soutenir l'ensemble de la filière. Le GNI demande un moratoire sur les remboursements des emprunts. Après les gilets jaunes, les grèves et le coronavirus, les entreprises se retrouvent sans trésorerie, assure-t-il.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui menace d'un encadrement des prix des masques de protection et des flacons de gel hydroalcoolique face à la spéculation à laquelle se livrent certains commerçants. De son côté, Emmanuel Macron annonce cet après-midi la réquisition des stocks et de la production de masques de protection. Et on apprend ce soir qu'une 4e personne a succombé après avoir contracté le Covid-19, un habitant du Morbihan, âgé de 92 ans. Le nombre de cas confirmés s'établit désormais à 204. En Iran, ce sont 77 personnes qui sont mortes après avoir contracté le virus. Le bilan a été largement revu à la hausse ce matin. Et le comité de soutien des 2 chercheurs français incarcérés dans ce pays estime que l'épidémie menace leur vie. Leur procès s'est ouvert aujourd'hui à Téhéran. Leur soutien, Christian Chesneau, appelle à leur libération immédiate.
Le comité de soutien de Fariba Adelra et de Roland Marshall dénonce une parodie de justice, notamment du fait de l'absence d'avocats pour assurer leur défense. Officiellement, les 2 chercheurs sont jugés pour propagande contre le régime et atteinte à la sécurité de l'État. Et puis, il y a leurs conditions de détention déplorables et surtout leur état de santé qui se détériore de jour en jour, s'alarme Béatrice Hibou du CNRS.
Très très grande inquiétude par rapport à leur état de santé, évidemment. Par rapport à leur état de santé psychologique, quand on sait qu'ils ont attendu tous ces jours pour avoir le procès, qu'ils sont depuis 272 jours en prison et dans des conditions extrêmement difficiles. Fariba Adelra a subi des interrogatoires extrêmement difficiles. Leurs conditions physiques sont extrêmement délicates, enfin ils sont extrêmement affaiblis, et ne pas leur apporter des soins, ne pas leur permettre pour Fariba Adelra d'aller à l'hôpital, pour Roland Marshall d'avoir accès à ses soins, c'est une forme de torture.
La dernière visite consulaire à Roland Marshall remonte à janvier et pour le moment aucune autre n'est programmée. Le comité de soutien tire la sonnette d'alarme et estime que les 2 chercheurs français sont aujourd'hui en danger de mort.
Christian Chesneau. Pour l'heure, l'épidémie de coronavirus ne semble pas freiner les ardeurs des électeurs. Ils étaient 71% à voter hier en Israël. C'est plus que lors des 2 derniers scrutins de septembre et d'avril 2019. Le virus ne semble même pas être un sujet de préoccupation aux États-Unis. Mais qu'en sera-t-il en France dans 12 jours au premier tour des élections municipales? Une chose est sûre, les jeunes devraient majoritairement bouder les urnes. C'est ce que révèle une étude de l'IFOP rendue publique ce matin. 2/3 des 18-25 ans, 67% n'iront pas voter. Et rien à voir avec le Covid-19, Rosalie Lafarge, c'est plus prosaïquement un désintérêt manifeste pour la chose politique.
Ce désintérêt n'est pas une surprise pour Étienne Idier. À 22 ans, cet étudiant du Val d'Oise est engagé chez Allons Enfants, un parti géré par des jeunes de moins de 30 ans. Mais il n'est pas né passionné par la politique. D'ailleurs, la première fois qu'il a pu glisser un bulletin dans l'urne...
Je n'ai pas voté, parce que j'étais pas du tout intéressé.
Et il comprend assez facilement qu'un tiers seulement des 18-25 ans s'intéresse à la campagne.
Ce désintérêt, il s'explique par un manque de représentation. Dans tous les partis politiques, il y a toujours cette tendance à ostraciser la jeunesse.
Une jeunesse mal représentée et qui se met aussi parfois elle-même des freins.
On s'auto-censure. On va pas voter parce que je n'ai pas forcément les compétences pour avoir un intérêt pour la chose politique ou parce que c'est loin de moi tout ça et je n'ai pas d'idée. Or, tout le monde a des idées politiques, tout le monde.
Mais les 18-25 ans sont visiblement nombreux à avoir renoncé à les exprimer dans les urnes, ces idées, en tout cas pour ces municipales. Et cela s'inscrit toujours selon l'enquête dans un état d'esprit plus global d'indifférence. Les jeunes sont beaucoup moins révoltés qu'avant l'élection d'Emmanuel Macron, souligne Frédéric Dabi, le directeur général adjoint de l'IFOP.
On est passé de la protestation à une véritable indifférence, puisque la révolte qui atteignait 48% comme définissant état d'esprit des votes n'est maintenant plus que de 23%, et au contraire, les jeunes, plus de 6 sur 10, sont soit indifférents, soit résignés. Cette question toute simple dessine un tableau particulièrement inquiétant. Des jeunes qui sont moins mobilisés, moins engagés, en dehors peut-être de grandes causes, notamment environnementales, et qui sont, hein, au sens d'Albert Hirschman, dans une situation d'exit par rapport à la société française.
Une situation de fuite aussi, ou au moins de rejet des formations politiques. Quand on leur demande quelle liste ils souhaitent voir prendre les rênes de leur commune, les jeunes sont près d'un tiers à écarter celle avec des étiquettes et à répondre une autre liste.
Rosalie Lafarge. Avant les municipales, le gouvernement d'Édouard Philippe doit affronter deux motions de censure déposées par les députés d'opposition à l'Assemblée nationale après le recours au 49-3 pour faire passer la loi de réforme des retraites. Une motion déposée par les partis de gauche, l'autre par les Républicains. Ces deux motions doivent être débattues jusque tard dans la soirée. En attendant, les députés Pierre Neveu se sont échauffés cet après-midi lors de la séance de questions au gouvernement.
Et franchement, on a connu des après-midi de questions au gouvernement plus tendues, pour ne pas dire plus électriques, à croire que les députés n'attendaient qu'une chose, la prise de parole d'Édouard Philippe tout à l'heure pour défendre la réforme des retraites et justifier le recours à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, ce qui constitue une première pour le chef du gouvernement. Alors, avant le grand oral et l'examen des deux motions de censure de l'opposition, dans un tour de chauffe, le député communiste de Seine-Maritime, Jean-Paul Lecoq, a dénoncé tout à l'heure la brutalité du gouvernement.
Ce 49-3, c'est celui de la violence contre le peuple. Vous réformez désormais seul contre tous. Ce 49-3, c'est enfin le signe de votre faiblesse. Au pouvoir, la violence, c'est l'arme du faible.
Un 49-3 d'une extrême violence après 13 jours de débats inachevés, souligne le député France Insoumise du Nord, Adrien Quatennens.
Ce LBD parlementaire d'une 5e République à bout de souffle, c'est vous qui le dégainez. Seul contre tous. Contre la représentation nationale, contre la majorité des Français opposés à votre texte, contre les grévistes et les manifestants, contre les engagements pris devant les Français par le candidat devenu président.
Et le Premier ministre Édouard Philippe de se justifier si l'Assemblée doit en ce moment adopter le texte sans vote, c'est de la responsabilité de Jean-Luc Mélenchon.
Permettez-moi de vous renvoyer au président de votre propre président de groupe qui, il y a 2 semaines, disait que l'objectif de votre groupe, c'était littéralement de procéder à de l'obstruction et qui aujourd'hui dit l'inverse.
Mais pour la députée des Républicains de la Marne, Valérie Beauvais, la manœuvre du gouvernement était tout à fait prévisible.
Au fond, vous avez encouragé l'obstruction, puis activé le 49-3 pour éviter d'expliquer votre réforme, pour en masquer les lacunes.
Et le Premier ministre, qui avance cette séquence politique tout à fait particulière, a invité les députés de la majorité à rester soudés. Un appel à l'unité d'autant plus remarqué qu'il intervient après la défection hier soir de 2 nouveaux députés LREM qui ont choisi de quitter le groupe majoritaire pour protester contre ce recours au 49-3.
À Pierre Neveu, en ce qui concerne la réforme des retraites en elle-même, après Force ouvrière hier soir, la CGT a annonce à son tour aujourd'hui qu'elle quitte la conférence de financement. C'est l'un des volets de la négociation. Son secrétaire général Philippe Martinez parle de mascarade. Il dit ne pas vouloir servir d'alibi et appelle à poursuivre la mobilisation dans la rue partout en France. Mais les cortèges aujourd'hui, même à Paris, étaient plutôt très clairsemés. La CGT qui organisait aujourd'hui sa riposte chez Renault 2 semaines après l'annonce de la direction générale du constructeur de supprimer des postes face aux pertes de 2019. 141 millions d'euros, une première depuis 9 ans. Le syndicat demande à la direction le maintien des emplois et Hakim Kasmi, cela passera, selon le syndicat, par la relocalisation d'une partie de la production.
Oui, le chiffre est éloquent. Depuis 2004, le constructeur est passé de 53% des voitures produites en France à 17% seulement l'année dernière. Et d'ici 2022, Renault va arrêter toute la production de ses véhicules thermiques dans l'Hexagone. Il ne restera plus que la Zoé qui, elle, est toute électrique, du moins pour l'instant. D'où la forte inquiétude des syndicats qui réclament une partie de la relocalisation de la production en France dans ces usines qui ne tournent qu'à 50% de leur capacité contre 130%, soit plus du double en Turquie. Fabien Gache, délégué CGT Centrale chez Renault.
Qu'en France, on pourrait dès 2021 accroître de plus de 350 000 véhicules qui pourraient être fabriqués en France et qui s'ajouteraient aux 650 000 actuels. Ce qui veut dire que très concrètement, on pourrait faire 1 million de véhicules en France et qui permettrait dans la filière automobile d'embaucher au moins 4 000 CDI. D'après nos calculs, et pour l'instant Renault ne l'a pas démenti, l'impact qu'aurait la fabrication en France de 350 000 véhicules actuellement fabriqués en Roumanie ou en Espagne ou en Turquie ne représenterait pas plus de 100 euros de moins de marge par véhicule vendu.
Le groupe justifie sa politique par la réduction des coûts face à une concurrence qui s'est mondialisée. À cela, il faut aussi ajouter les conséquences environnementales. Une partie des pièces comme les airbags ou les culasses ou les roues sont produites ensuite en Europe de l'Est, dans les pays très carbonés qui utilisent principalement le charbon dans la production de leur électricité, comme la Pologne par exemple. À cela s'ajoute aussi les voitures qui sont transportées en France par camion, voire par bateau lorsqu'elles viennent de Chine ou du Maroc. La marque Holosange doit présenter en mai le détail des réductions d'effectifs. Depuis 2004, Renault a déjà supprimé dans le pays 26 000 postes.
Et vous parliez de réduction, Hakim Kasmi, de l'empreinte carbone. 25 multinationales françaises sont épinglées aujourd'hui par un rapport de l'association Notre Affaire à Tous. Parmi elles, sur le podium, Air Liquide, Total et Natixis. Aucune de ces 25 multinationales ne s'engage suffisamment pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, comme le voudrait pourtant une loi de mars 2017 en lien avec les objectifs de l'accord de Paris. Le temps, trois départements toujours en vigilance orange, les Landes, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques, vigilance au vent violent, alors qu'une nouvelle perturbation s'annonce par l'ouest demain matin, début de journée qui sera calme et frais à l'est, voire lumineux sur les régions Corse et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les températures au lever du jour, 2 à 7 degrés de la Bretagne et de la Basse-Normandie jusqu'aux Pyrénées et au pourtour méditerranéen. Partout ailleurs, il fera entre moins 1 et 4 degrés.